Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé.
Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Emile Coury.
Big business, dernière date de la première édition de cette tournée-là. Peut-être qu'il va en avoir une deuxième, ça se peut que non. Il reste une date à Longueuil le 1er juin. Si vous voulez avoir accès à vos billets, c'est mon spectacle solo, mon premier spectacle solo. Ça a été super nice, pas mal. Toutes les dates étaient sold out, plein fucking belle énergie. Linktree.com/Emile Coury, sinon sur mon Instagram dans la description, sinon dans la description de YouTube.
Vous avez été malade à Montréal pour mon spectacle solo au bar Le Jockey. Mon spectacle solo qui s'appelle Je comprends. Je le présente prochainement le 19 mai au Poutine Bar et ensuite le 10 juin au Terminal Comedy Club. Il reste des billets, il reste vraiment pas beaucoup, mais il reste comme, please, achetez-les. C'est, le spectacle est bon. Je vais pas vous mentir, il y a de la place. Fait que juste, go.
Gros, shout out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaire. Il y a du contenu exclusif, un épisode de plus par semaine, des rapid fire où est-ce qu'on s'envoie chier, Jacob et moi. Ceux qui sont à 20$ par mois, vous avez accès à des enregistrements live gratuits. Vous en avez eu 3, puis on va recommencer à en faire très bientôt. Des rabais sur la merch, potentiellement de la merch qui arrive maintenant. Donc, à 7, 12 ou 20$ par mois, par contre, vous avez accès à du plaisir. Et à 12 et à 20$ par mois, vous êtes les producteurs de ce podcast. Et on vous fait un shout out comme à début de chaque épisode. Gros shout out à Alberto Cabal, Clem The Word, Jada Bougelli, Jean-Serbin, Marc-André Bernard, Nicolas Bejon, Sophie Ramos González, Alex Petit, Alexandre Carvalho, Amélie Ramon, Marie Bédard, Bruno Leves, David Rivet, Dominique Petit, Excavex et Sud.
Flavie, François Lévesque, Hugo Fredès, Isnuc QC, Jeannie Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson Chao 97, Jess Benoît, Jesse Gelina, Karianne Poulvin, Kerouac.
La Fénini, leur parodie, Laurie Ryan, Mark Schaber, Marie-Pierre Thibault, Martin Labelge, Maxime Sortosage, David González, Samuel Seguin. Gros chaleur à Samuel Sigouin. Samuel Sigouin, Agropole.
Agropole.
Il nous a envoyé de la bouffe.
La bouffe est bonne.
C'est excellent. Agropole, c'est une compagnie.
C'est vegan.
Basée à Sherbrooke.
Ouais.
Qui est. Qui font en estrie. Produit en estrie. Puis ils produit font en estrie. Ici.
Oui.
C'est vegan. C'est santé. Des micro-pousses. Des fèves. Ce que vous voulez, du tempeh, seitan. Il y a des options délicieuses. Moi, mon préféré, personnellement, c'était le burger.
Agropole, A-G-R-O-P-O-L-O. Oui, le hamburger était incroyable. Oui.
A-G-R-O-P-O-L sur Instagram. Gros chaleur à Samuel Sigouin. C'était délicieux.
C'est vraiment bon. C'est vegan. Fait que genre, c'est comme. We're not killing animals. Tu vas mourir de quelque chose d'autre. OK?
Ouais.
C'est délicieux.
Exact.
Allez-y, Agropole. Juste. Oui.
Samuel Charbonneau.
C'est moi, Charbonneau. OK, vas-y.
Vas-y.
Will, Zachary Dorval, Alexandre Richard.
Non.
Fuck you, Alexandre Richard.
Et cette semaine, comme à chaque semaine, on roast un pauvre à 7$ par mois. Et cette semaine, le pauvre, c'est Charles Boucher.
Yo, ça va, Charles Boucher? C'est quoi, t'aimes beaucoup le bolognais de la boucherie?
Yo, ça va, t'es full-time dans la boucherie du AGE ou t'es un Charles fromager?
Yo, Charles Boucher, t'as une boucherie, c'est qui ton père, Mom Boucher?
Yo, Charles, ton cousin, c'est Chris Boucher de Toronto Rap.
Yo, ça va, Gabago?
Sérieux, merci Charles, c'est vraiment apprécié.
Merci Charles, c'est 1er mai.
1er mai?
Bon, ça, le on l'a fait dans la fois, il fallait pas le Et pour ce qui est de l'épisode, mais gros shout-out à tout le monde qui nous a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Fait là, c'est vraiment pas encore fait.
Merci beaucoup.
Et pour ce qui est de l'épisode, pour ce qui est de cet épisode,
oui.
Comme les autres, et
oui.
Comme celui-là et comme les futurs, je sais pas si mes testicules paraissaient dans le.
C'était dégueulasse.
Enjoy
the show.
Est-ce que les Maghrébins sont reconnus pour être en retard?
C'est une réputation qu'on a, la Méditerranée en général.
Mais est-ce que les Maghrébins spécifiquement?
Les Maghrébins, on a une tendance à ne pas respecter les horaires.
On a une tendance à ne pas respecter. Si la tendance se maintient, l'horaire ne va pas être respecté. Parce que c'est aussi. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un manque de respect.
Non.
C'est juste un truc culturel.
C'est juste un respect de notre culture.
C'est un respect de la culture. Exactement. C'est un respect du fait que la vie, c'est correct.
C'est que nous, on ne veut pas aller en enfer parce que sérieusement, notre Dieu, quand on va aller au paradis, il va faire. T'étais trop à l'avance. Va en bas.
Attends.
Va chiller avec Belzébuth.
Je pense que c'est plus un truc où est-ce que dans la culture, le monde ne court pas. Soit personne n'est fâché quand quelqu'un est en retard. Mais moi, par exemple, maintenant, vu que j'ai été conditionné au Québec...
Mm-hmm. Tu veux perdre de l'argent, c'est ça?
Puis il fait froid, puis tu veux courir, puis tu punch in, punch out, puis tu cours d'une place à l'autre. Mm-hmm. On n'a pas ce truc-là comme quand je vois au Liban que t'invites les gens à souper à 8h, puis ils débarquent à 9h30, puis personne n'est stressé.
Et puis il n'y a personne qui te regarde croche.
Personne ne te regarde croche. Au contraire, c'est bizarre quand t'arrives trop tôt.
Ouais. On parle de pays où, genre, même si t'es en retard, tu peux attendre devant, il y a du soleil, il fait beau, il y a des cafés.
Mais les gens, c'est
pas grave, là, si t'es en retard, man.
T'as fucking raison. Yo, si t'es en retard,
tu peux perdre un doigt, si t'es en retard.
Oui, c'est une question de santé, là.
T'es comme, yo, j'ai fumé 2 paquets de cigarettes, bro. T'étais où?
Ouais.
Et là-bas c'est chill. Là-bas, tu vas tomber sur ton cousin qui passe dans la rue. Tu vas partir sur un autre rendez-vous.
Dans le pire des cas, tu soupes avant de souper en route. Là.
C'est exactement ce que
tu fais. Ton petit snack.
Nous, il y avait une famille avec qui on passait beaucoup de temps quand on était jeunes et ils étaient tout le temps à l'avance. Puis quand j'étais jeune puis j'avais pas mes opinions en moi, mes parents trouvaient ça fucking bizarre.
Ah, c'était chiant.
Chaque fois, il fallait qu'on se prépare en conséquence.
Wow.
Sauf si le truc était à 6h30, on leur disait que c'était à 6h45.
Ah, c'est parfait.
Ou 7h. Puis parce qu'ils allaient arriver à 6h30.
Donc, à 6h.
Donc, tu respectais la deuxième tendance du maghrébin, le mensonge.
Exactement. Donc, on est en retard des menteurs.
Et on est des menteurs. Et tu connais la règle.
La règle dans la bienséance, il y a plein de règles dans la bienséance et dans le savoir-vivre.
Ouais.
La règle, c'est d'arriver pour que les maîtres de maison puissent se préparer, c'est d'arriver 15 minutes après l'heure annoncée.
Ce qui est logique.
Ça, c'est la règle.
Ce qui est logique.
Arriver 15 minutes après l'heure.
Oui. 15 minutes de retard pour donner aux maîtres, aux hôtes...
Un petit buffer.
Un petit, ouais. Ça, c'est la règle de bienséance.
Imagine, t'arrives et il a vraiment envie de chier. Tu dois lui donner un 15 minutes juste pour savoir.
Exactement.
C'est vraiment des trucs de ça.
C'est vraiment une règle de bienséance, de savoir-vivre.
On dirait que moi,
c'est la logique, selon moi.
On dirait que moi, je t'en retarde depuis que je suis parent. On dirait que là, je l'accepte plus.
Ça, c'est marrant, ça.
On dirait que depuis que j'ai des kids, si je me respecte, je vais arriver 30 minutes en retard au brunch avec mes enfants.
Okay.
C'est correct.
Okay.
T'es un bon père. Si t'arrives en retard, t'es un bon père.
Exactement.
T'as pris le temps de changer la couche.
Oui,
t'as pris le temps de l'engueuler. Oui. T'as pris le temps de faire toutes ces niaiseries qui font que t'es en retard.
Si t'es en avance, ça veut dire que t'as battu ton enfant. C'est ça qui est arrivé.
Tu l'as pas écouté.
Si t'es pas présent. Si t'es en avance, c'est que t'as décidé de laisser les enfants dans le garage. C'est fini, ils viennent pas avec moi.
C'est que tu respectes plus des gens que tu connais pas, qui sont pas ta famille.
Oui, exactement, que ta propre famille.
Que ton propre le fruit de tes entrailles.
Es-tu plus en retard avec les gens que t'aimes? Tu te permets plus avec les gens que t'aimes.
Avec les gens que j'aime, j'y vais pas, man.
Tu me fais juste pas se pointer.
Ils peuvent pas arrêter de m'aimer parce que je suis pas venu à un rendez-vous.
C'est ça le truc, c'est que des fois, je le prends pour acquis. Des fois, je me dis, comme tu sais quoi, c'est pas grave si j'arrive 15-20 minutes en retard.
Mais tu vois, ça, c'est une leçon de vie que j'ai eue, là. Parce que
c'est quoi?
C'est une leçon de vie que j'ai eue parce que j'ai l'impression qu'on accorde plus d'importance à des gens extérieurs qu'on connaît pas, des amis, etc. Enfin, qu'on connaît pas des amis, que notre propre famille, des gens qu'on aime.
On a beaucoup plus de tact aussi avec ces gens-là.
Avec ces gens-là.
Ouais.
On est plus enclin à avoir des grosses rigolades avec ces gens-là. On est plus enclin à accepter plein de choses. Alors que j'avais l'expérience avec mes filles qui sont là. Ça faisait 3 ans que je les avais pas vues, tu vois.
Et ils sont venus?
Elles sont venues là. Okay. Elles sont là.
Oh, dommage.
Parce que toi, t'es venu de la France. Toi, t'es venu de la Pologne.
Je suis venu de la Pologne. J'ai fait un petit séjour en France chez mes parents. Après, je suis venu ici.
Okay. Ça fait 3 ans, t'es arrivé pendant la pandémie.
J'ai vu, ils avaient fait leur vie. Je fais, OK, j'ai plus rien à faire ici.
Bye.
Toi, tes filles t'ont dit, on arrive quand elles avaient 6 ans. Puis là, elles ont 9, puis elles viennent juste de débarquer. C'est ça le truc.
Non, elles sont 18, man.
Putain.
Oh, 18 et 13. Et je les ai réabandonnées là pendant 3 heures.
Waouh.
Au moins, je dois aller faire un open mic, j'arrive.
Au moins, t'as utilisé le bon mot. T'as dit abandonné, bro.
T'imagines à quel point, tu sais. On délaisse les gens qu'on aime pour des gens
pour des
qu'on connaît depuis 2 ans.
OK, mais dis-moi quelque chose.
C'est fucking vrai.
T'as déjà laissé tes parents pour aller quelque part et on va en rentrer un petit peu plus en détail. Après, t'as déjà laissé tes parents pour déménager quelque part puis faire ta vie
tout seul.
Ouais. Là, c'est arrivé, t'étais dans une situation où est-ce que t'as dû laisser tes filles pour venir au Québec, point de vue job, point de vue ascension, point de vue carrière, point de vue tout ça.
Ouais. Exact.
Et c'est plus difficile laisser ses parents ou c'est plus difficile laisser ses enfants?
Oh shit.
Yo shit, man.
On dirait que c'est pas le même struggle.
Yo, j'ai envie de dire que ça dépend où est-ce que t'en es dans la vie. En tant que jeune adulte, c'est plus difficile de laisser ses parents parce que t'as un vrai attachement. Mais en tant qu'adulte responsable et fait, tu sais que tes parents ils sont assez matures pour comprendre.
Tu sais qu'ils vont
est-ce
pas
que tes parents maghrébins sont assez matures pour comprendre?
Non.
Moi, mes parents, je pense jusqu'à 43 ans, ils vont toujours pas comprendre pourquoi je quitte. Pourquoi tu sors maintenant comme monde
en vrai, je pense c'est pareil. C'est comme genre, est-ce que tu préfères ta mère ou ton père?
Okay,
c'est genre de questions là. T'sais. Le niveau d'amour que t'as pour tes enfants, il est aussi important que celui que t'as pour tes parents. Je pense que les deux sont difficiles.
Mais maintenant, tes parents, t'es laisse aller. Tes enfants, moi, on dirait que moi, mes enfants...
Tes parents, c'est pas ta responsabilité, mais tes enfants, c'est ta responsabilité.
Ouais, c'est ça, on dirait que...
Hey, chez les familles maghrébines, t'es malade ou quoi?
Oui, c'est vrai, t'as raison,
c'est ta responsabilité. J'envoie des sous à mes enfants et j'envoie des sous à mes parents.
Je te comprends. Non, mais c'est ça?
Mais oui, je le sais que c'est ça, mais ouais. C'est que chez nous aussi, c'est ça. Moi, j'ai un peu brisé ce cercle-là. Cette tradition, j'ai fait « Hey, les e-transfers une fois par mois, it's a lot! » Mais je comprends, puis je trouve ça... Yo, je trouve ça nice, puis je trouve ça... J'essaie d'impliquer un peu ça chez nous. Tu sais, comme moi, ma blonde, elle me répète souvent comme... là, tes parents, ils ont-tu une retraite, genre? Puis je suis comme, mon père, c'est Dumouriez, c'est ça, sa retraite?
Il a acheté une crosse chez les Indiens, c'est pas mal ça.
Puis ma mère, c'est la journée que son dos va lâcher, c'est ça, la retraite. Parce que sinon, elle va travailler jusqu'à temps que... Puis elle est comme, ouais, mais ils vont aller où après, genre, comme, vont-ils avoir de l'argent? Je suis comme, ben, tu sais, moi, je pense que si je continue à travailler puis je peux avoir une maison, comme, ils vont, s'ils sont dans la merde, ils vont habiter, il y en a un qui va habiter ici, puis elle était comme, OK, je comprends. Ouais, OK. OK, tes parents.
Okay. Québécoise.
Elle québécoise, ouais. Mmh. Fait que c'est pas pareil. Puis on dirait qu'il y a même ce détachement de... Puis je trouve ça beau des Québécois qui a ce détachement de... C'est chill d'aller laisser mes parents dans un asile.
C'est beau chez les Québécois que...
Ils ont pas de cœur.
Ils laissent leurs parents devenir des raisins secs sans l'attention de leurs enfants. Non, mais... Ils ont bûché toute leur vie. C'est beau payer 5 000 $ par mois pour les mettre dans une boîte où est-ce qu'une haïtienne va rentrer, changer leur couche, puis elle va commencer à leur apprendre le créole, puis elle va les aimer plus que leurs propres enfants les aiment.
Puis tu sais pas si la bouffe, c'est du pâté chinois ou juste de la bouffe de prison. Tu
c'est juste...
C'est beau.
C'est chill.
C'est beau d'avoir ce détachement-là.
Moi, j'adore. Que mes parents, les seules conversations qu'ils vont avoir, c'est avec le concierge roumain. Puis ils
ou le mur que t'as en avant de toi.
Ou le mur. Puis que le seul contact qu'ils ont, c'est le bouton qu'ils pressent quand ils sont plus capables de respirer.
Quand ils veulent juste plus de morphine. C'est mais il y a quelque chose de... En tout cas, regarde, tu vois, comme moi, le père de ma blonde, il a mis sa mère dans un genre de CHSLD, mais premium.
Hein?
Premium, là. Comme ouais. Elle a un cinéma maison. La cafétéria, c'est genre fucking la salle de réception de chez Lordia.
OK.
Elle a une affaire de golf. Elle a comme 2-3 piscines creusées. Okay. Y a des,
c'est quand même fou,
ça. Il y a un amphithéâtre.
Mais ça, il faut que tu puisses te permettre.
Ils achètent ta conscience, man.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est genre, si, c'est pour ceux qui ont un petit peu de scrupules. Fait... Ouais, mais elle peut aller voir Titanic, tranquille.
Yo, l'écran est 137 pouces.
L'écran est malade, le son, t'es HX, bro.
Oui, elle entend plus parce qu'elle est sourde. Le son, c'est Dolby Digital.
Hey, t'as déjà vu Avatar sur cet écran, même?
Oui, je sais que tu veux voir ton fils, mais t'as déjà vu Avatar?
Yo, c'est pas grave si tu vois flou, c'est ça le 3D, c'est correct. Continue à regarder, grand-maman.
Je suis une merde parce que je veux que ma mère vive une expérience cinématographique hors du commun. C'est pour ça que je suis une merde. OK, j'avoue, coupable.
Est-ce que je suis une merde parce qu'elle peut utiliser le jacuzzi 3 fois par semaine?
J'avoue, je suis coupable. C'est ça, quoi.
Ma mère, ma grand-mère, elle peut pas goûter, mais elle mange des sushis. C'est incroyable. C'est malade. C'est malade, c'est des chewing-gums. C'est délicieux.
C'est quand même fou. Puis je sais pas si vous étiez au courant, mais apparemment, il y a un fléau de maladies transmises sexuellement dans les résidences de personnes âgées. Parce que tout le monde se pète le cul.
Tout le monde se pète le cul.
Waouh.
Tout le monde se pète le cul.
Mais je pense qu'il y a
des resurgences de la chlamydia et de la syphilis.
Tu veux que je prive mes parents d'une orgie? En mangeant des sushis devant Avatar. Fuck you, man.
Yo, moi, ma mère est tellement religieuse, comme si elle va dans la CHSLD, on va faire « Oh mon Dieu, c'est les démons ici! » Puis les autres vont être comme « get out! »
Mais d'un autre côté, des personnes âgées,
ouais.
Quand c'est des êtres humains qui ont une pleine conscience, la majorité du temps, il y en a deux, il y a une proportion qui perdent la tête.
Il y en a deux, trois que c'est des jokers.
Il y en a deux, trois, il faut les éviter.
Mais à part ces deux, trois-là, quand t'arrives à un certain âge, c'est que t'as plus de responsabilité.
Ouais.
Soit tu redeviens un peu avec la même responsabilité dans ton enfance. Soit...
Et ton
sexe. T'es un adolescent, bro.
Et ton sexe fonctionne.
Ton sexe,
pour une durée limitée.
Exactement.
Mais il fonctionne.
Puis tu peux même peut-être des fois avoir un petit coup de main. Tu peux une petite pile, puis là ton pénis fonctionne. Soit là t'es comme yo.
Tu pourras prendre dans un resort.
Est-ce que tu
prends un petit centrum, puis là t'es comme.
C'est une croisière géante, mais c'est un bateau qui bouge pas.
Exact.
Et est-ce que vous, comme moi, vous pensez qu'il y a des employés dans les SHSLD qui font des deals de Viagra?
Oh, ça doit. Moi, si j'étais un employé dans un CHSLD, j'importerais du fentanyl.
Si je travaillais dans un CHSLD, je ferais comme, oui, t'as raison, c'est du Viagra, puis ça serait genre du Vivance. Bon, il serait complètement explosé, genre sur l'adéral.
Wow.
Comme je suis pas bandé, mais je suis laser focus sur la conversation de Jocelyn. Ça va?
Mais ça doit, il doit avoir des petits trucs, comme un grand-père italien a des deals derrière la table, là, qui se ferait 2-3 saucisses de plus dans son assiette, puis lui, il fait importer quelque chose que...
Et c'est ses petits-enfants et ses enfants qui le fournissent, et tout le monde est au courant.
C'est sûr, puis ça crée un écosystème. Êtes-vous déjà allé dans des résidences?
Jamais.
Mais des résidences un petit peu plus high class?
Non. Oui, j'étais au marronnier. C'est malade, bro. Comme y a les triporteurs, bro, c'est des Mercedes. Tout est en or.
Tout est plaqué or.
Mais t'aimerais. OK, on va tous se rendre là. C'est soit qu'on va mourir à. T'as 43 ans, toi, t'es chill, t'as passé. Toi, c'est soit que tu meurs genre à 34. Mais si on survit, t'es dans les CHSLD. Parce que on n'a pas pris assez soin de nos enfants, puis nos enfants nous ont négligés.
Hein.
T'aimerais que ce soit qui ton voisin? Qui ton voisin, ça serait?
Quelqu'un...
Une Jocelyne? un Ricardo, un Latino? Tu voudrais que ce soit un Italien? Tu voudrais que ce soit un Grec?
Non, non, tu veux que ça soit une femme.
OK. Ouais.
OK. Ouh. Si ta femme est morte, OK, puis toi, t'es veuf.
Oui. Mmh.
Tu t'es pas remarié.
Mmh. Oui.
La seule personne, en tant qu'homme, puis peu importe c'est quoi ton penchant sexuel, sauf si c'est un homme, ça va être un homme qui va être à côté de toi.
Exact, ouais.
Il faut que tu aies une personne à côté de toi par qui tu es attiré émotionnellement pour faire des petits moves de grand-père cute. Ah, tu vas chercher ton déjeuner le matin, tu prends ton café, tu sais, elle se réveille ou lui, il se réveille à telle heure.
Ah, oui, oui, oui.
Tu lui amènes son café à la
porte. Moi, je veux que ce soit ma banquière qui m'a refusé un crédit.
Pourquoi?
Je vais lui faire la misère. Je vais aller chier devant sa porte.
C'est ça qui va le garder en vie. Bon, toi, tu vas mourir la semaine prochaine
lui,
dans le
CHSLD. Radi ouais. est dans une résidence de personnes âgées et crée une mutinerie en l'espace de deux. Il va révolutionner tout l'espace et il va se pendre en plein milieu de la salle de réception. C'est vraiment ça.
Son voisin va plus être son voisin, ça va être une joaillerie. Il, oui, il va juste créer des commerces dans les pièces. Puis quand le monde va cogner, c'est lui qui va ouvrir la porte et comme we're out of business.
Je vais faire des petits encadrés sur les portes. Avec... C'est pourquoi.
C'est quoi le code? Chimichanga? Oui, tu peux rentrer.
Tu peux rentrer. Ça devient, ça commence une journée, c'est un marché aux puces. L'autre journée, c'est une boutique de réparation cellulaire. L'autre journée,
Vous n'avez pas encore l'âge d'y penser. Moi, j'ai 43 ans, j'y pense.
Je pense. Le CHSLD, la retraite?
Je pense à la fin de ma vie. Parce que là, je viens de voir mes parents. Ça faisait 3 ans que je ne les avais pas vus. Et tu sais, ils ont vieilli. Ils sont à la retraite. Et mon père est malade. Ma mère, elle commence à devenir un peu âgée. Et je te jure, la dernière fois, je t'ai posé, je fais « Hey yo, moi, la dernière fois là que je les ai vus, en forme, ils avaient mon âge, moi. »
C'est-à-dire
là,
c'est le début de la fin.
Dans la force de l'âge, j'avais 20 ans. Mes parents avaient 43. Je suis parti de chez moi, là, je les ai vus genre en mode… Et là, tu sais, genre, à partir du moment où je suis parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui, c'est passé en un éclair.
Fuck.
Et là, j'étais couché, je fais… Shit, c'est-à-dire ma fille, elle a 18 ans. Là, elle va venir faire ses études à Montréal. Le temps va passer comme ça.
Elle va me laisser
comment
tomber,
elle va s'occuper
voyager.
De moi. Comme je m'occupe,
ouais,
moi, de mes parents.
Ouais.
Est-ce qu'elle va me payer un billet pour la rejoindre quelque part, comme j'ai, ouais, fait pour mes parents? Est-ce, enfin, qu'elle va me laisser traîner comme une merde dans ma piste? J'en sais rien, man.
Tu peux pas savoir.
Je
pas
sais pas.
Tu peux pas le calculer. Puis en passant, notre retraite, c'est les enfants.
C'est les enfants.
La vraie, ouais, retraite, c'est, ouais, tes enfants. La vraie, ouais, retraite, c'est pas l'argent que t'as mis de côté.
On n'est pas des gringos. On n'est pas des gringos qui ont mis derrière. Non, non.
Non, non, non.
Non, non, nous, notre retraite, ça va être équilibré. Puis même pas d'un point de vue financier, juste d'un point de vue temps.
Temps humain, relationnel, etc. Tu sais, genre, je sais pas si j'accumule assez d'argent. Comment mes filles, elles vont me regarder, genre, comme un pactole, c'est genre.
Puis... Comment toi, t'as fait les calculs, t'es comme, hey, là, je fais 2 terminales. Là, si je suis capable d'en faire 73 d'ici les 27 prochaines années, je vais avoir 12 000 de côté.
Non, j'ai une target. J'ai une target.
T'as un, okay, objectif.
J'ai un objectif.
T'as un objectif.
J'ai un objectif à laisser.
Okay. Ouais, ouais, ouais.
J'ai un objectif à laisser.
Puis si tu réussis pas au Québec, toi, tu te décales souvent en Allemagne.
Je serai ailleurs. Ouais. Okay.
Okay. En passant, ouais, parce qu'il faut qu'on rentre dans les vraies affaires. Là.
Ouais.
Toi, t'es un gars aux facettes multiples.
Ouais. Oui.
T'as eu 73 vies, pas juste 73 carrières. T'as eu 73
quand
vies.
Je rentre en mode.
Ouais, c'est ça, quand il rentre en mode cagoule, c'est là, il sait que le fisc. Il a le,
ça va, Booba?
Le fisc, l'Interpol est sur son dos. T'as explosé en France dans les années 90.
OK.
Fin 90, début des années 2000.
Début des années 2000.
Ouais.
T'étais de quel coin en France, toi?
Je viens du nord, moi, de la France. J'étais, okay, à la frontière avec la Belgique. Genre, je pouvais aller en Belgique à pied, là, parce qu'il n'y a pas de frontière en Europe. Et à 18 ans, 19 ans, j'ai dit, allez, fuck, je vais aller à Paris. Comme quand, par exemple, tu viens de Rimouski et pour réussir, tu viens à Montréal.
Ouais, puis t'as rien d'exploser à Rimouski, ça va bien, t'es chier, t'es comme, ok, je veux prendre le next step.
C'est ça.
Avais-tu explosé au nord ou non?
Non, non, c'était vraiment. J'avais fait genre une première partie. Une première partie, genre dans un gros théâtre d'un duo, je pense, vous les connaissez, Eric et Ramzy.
Oh shit! Ouais.
J'avais fait leur première partie à leur prime, là.
Ah, man, les autres, c'est des machines, je les aime tellement.
C'est des machines. Là, je dis, vas-y, fuck, il faut que je réussisse, il faut que j'aille à Paris. Là, je vais à Paris, ça a été super vite. Ça a été très, très vite. J'ai rencontré une personne qui avait une espèce de club. J'ai dit, hey, c'est possible, on fait des shows ici. J'ai été la première à faire des shows. J'ai été la première personne à faire des shows au Moloko. Et au Moloko, après mon show, genre juste pour rire, France, on commençait à booker des humoristes au Moloko. Thomas Njijol, Mustapha El Atrassi, Eddie Izzard, il a fait son showcase,
okay,
au Moloko.
Okay.
Ça a été la place. C'était vraiment la place où il fallait jouer au Moloko. Le premier qui a monté une scène et qui a fait un show là-bas, c'était moi.
Putain. Puis là, toi,
Bounaïmin, Kian Kojandi,
il faisait mes premières... Les Québécois qui écoutent ça, c'est tout. Il vient juste de nommer les top humoristes, ouais, anglophones, ouais, ou francophones. Ouais. Et, ils viennent souvent ici à Montréal aussi.
Oui. Et ils faisaient mes premières parties, je faisais leur première partie. Et le shit était bon, là.
Ouais, Mustapha, le shit était bon.
Yo, man, Mustapha El Atrassi, il passait après moi. Aujourd'hui, Mustapha El Atrassi, il a fait une carrière de malade. C'est celui qui est considéré comme le meilleur stand-upper français. Okay. Par tout le monde. Il s'autoproduit, il a une grosse carrière, on va dire mainstream, dans les médias et tout. Il s'est perdu en tant que personne.
Okay.
Il a fait une dépression et il est revenu avec du stand-up où il s'en bat les couilles. Il parle cash aux gens. Un peu comme vous, tu sais, genre, il n'y a pas de... Ouais, on essaye de plaire. Il parle comme dans la vie et ça a popé et il a pris sa retraite.
Wow.
Son dernier show, il a fait à l'Olympia Montréal. En peignoir.
Mais je peux comprendre
quand que tu fais ton dernier show en peignoir.
C'est que ça calisse.
En peignoir.
Le peignoir du Fermont, là, où est-ce qu'il est resté. Il est sorti en culotte. Il a marché du Fermont jusqu'à l'Olympia. Il est monté sur scène. Pédé salaire. Il a dit merci.
Il y a encore du sperme. Il y a du sperme, bro.
Je crois qu'il y a une référence à ça au peignoir. Je me souviens plus c'est laquelle. Et ce gars-là, il jouait après moi. Moi, je jouais à 8h. Et lui, il jouait à 10h. Mais mon show durait tellement longtemps. Il y avait genre des gens dans les escaliers assis. Que lui, il commençait toujours en retard, il pétait toujours une coche sur moi, frère.
Putain de merde.
Oh shit.
Sur toi, tu commences à prendre de l'ampleur à Paris.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après?
Je fais.
Est-ce que tu faisais que du stand-up ou t'avais d'autres jobs?
Non, je faisais que du stand-up.
Que du stand-up, ok.
Je faisais des, on faisait du chapeau là-bas. C'est comme ça qu'on gagnait notre vie.
Ouais.
Mais je faisais des chapeaux qui n'avaient aucun sens, man. Je faisais des chapeaux à 700, 800, 900 dollars pour l'époque.
Les chapeaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à la fin du spectacle, en France, sur les plateaux d'humour, ils vont passer un chapeau, puis le monde, c'est contribution...
C'est le gars sur Ontario Papineau qui te quête de l'argent.
C'est ça.
Mais eux autres, c'est la même affaire, mais ils donnent un produit.
Mais il y a des petites blagues avant.
Il y a des jokes, il y a plein de shit.
C'est pas des menaces, c'est juste des blagues.
C'est pas un petit canif.
Mais ils vont peut-être pas prendre du crack après avec ça, peut-être.
C'est contribution volontaire.
Et voilà, l'entrée était gratuite. Et on fonctionnait comment? Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien. On avait un site qui s'appelle Billets Réduc où les gens pouvaient acheter leurs billets en réduction ou pas. Et c'était un site qui référençait toutes les critiques des gens. Donc les gens, après le show, je leur disais juste « allez mettre une critique ». Et donc plus tu avais de critiques, plus tu étais référencé, plus tu étais celui avec le plus de réservations. Et ça marchait comme ça.
Le site web, il va avoir de l'attraction, il va avoir du fucking…
Mais les gens laissaient des étoiles. Tu peux encore retrouver aujourd'hui sur Billets Réduc. Tu tapes Radhi, tu tapes et tu vois toutes les critiques que les gens ont laissées en 2001, 2002, 2003.
Putain, ça c'est il y a 20 ans.
Puis pourquoi tu as décidé de déménager? Fait que là, ça allait bien à Paris, mais tu as décidé de déménager quoi pour venir ici ou tu t'es déplacé ailleurs avant?
Je fais le Jamel, ça se passe bien, mais...
Oh shit, nice.
Ça se passe super bien, mais ce que je faisais, moi, c'était du one-man show. Je faisais pas du stand-up. Pas comme...
C'est quoi la différence entre du one-man show et du stand-up?
C'est un peu ce que vous appelez le cabaret. T'arrives, tu fais des personnages, il y a un quatrième mur.
Ok.
C'est plus théâtral.
C'est plus scripté. T'es pas dans un flow, dans une musicalité, dans un, tu sais, genre...
T'es en train de parler avec les gens, mais il y a un mur.
Ouais, tu fais des personnages.
Oui.
Et là, il y a le stand-up qui arrive. Le stand-up qui arrive d'Amérique, du Québec, avec l'un des premiers qui en a fait, Mustapha El Atrassi, justement, qui prend un micro, juste une lumière, il n'y a pas de noir, il
n'y
a pas de micro-casque, il n'y a pas de cue musique, il n'y a rien. Et c'est le début du Jamel Comedy Club. Il y a eu d'autres scènes un peu genre underground, mais l'équipe du Jamel Comedy Club a pris ce concept-là, il l'a mis à la télé parce qu'ils avaient les plugs à la télé.
Ouais.
Donc les gens connaissent le stand-up à travers le Jamel Comedy Club. C'est trop pour moi. Je maîtrise pas, je connais pas cet art. Donc je vois des jeunes arriver. Ben, j'étais jeune aussi à l'époque, mais je vois des nouvelles têtes arriver et ils maîtrisent cet art.
Fils de pute.
C'est des bâtards. Mais en plus, avec le recul. Ils ont tout volé à Eddie Murphy. Avec le recul d'un gaz de pute.
Lui, comme il y a quelque chose qui fonctionne pas, je maîtrise pas là. Pendant ce temps,
c'est
là,
normal.
Il faut juste copier.
C'est ouf, vous avez volé que moi je peux voler, bande de chiens.
Ouais. Je fais putain, c'est marrant. Oh ouais, le sketch sur. Je retourne en Afrique et mon cousin et je saute au-dessus des serpents Thomas Gijol. C'est fucking Richard Pryor qui a fait ça en 74.
Toi, t'es le gars.
Et je fais, man, c'est fucking bien écrit.
Non, mais lui, c'est le cycliste qui prend pas des stéroïdes. C'est comme, ils sont fucking bons, eux. Qu'est-ce qui se passe? Puis 20 ans plus tard, il est comme, ils étaient tous sur les putains de stéroïdes, ces fils de pute.
Ils sont fucking joints, comme moi, je comprends pas ce gars. J'ai une question. Quand tu les as vus faire ça, puis là, après ça, t'as vu les autres stand-up américains le faire comme...
Mais c'est 20 ans plus tard, tu réalises, là, c'est pas tout de suite.
15 ans plus tard, t'as dit...
C'est ma carte, c'est wow, c'est fucking... Putain, ça doit te faire.
C'est pour ça que j'ai aucune pitié avec tous ceux qui ont volé.
Ouais.
Tu sais, les gens qui me disent, j'ai des amis encore en France qui font des scènes, qui montent avec Gad et tout, qui me font, ouais, mais Gad, je fais nique sa race. Ouais. Vraiment, j'ai aucune pitié. Et ils me disent, ouais, mais tu sais, genre, s'ils te proposent une tournée de première partie dans des zéniths avec 6000, 7000, 10000 personnes, j'y vais pas.
Je vais dire oui. Moi, je vais dire oui, mais tout le long, dans les loges, je fais, t'es quand même un fils de pute, bro. J'ai besoin de l'argent, bro. T'as payé mon hypothèque, mais nique ta race.
Même pas.
Non?
J'aime trop le stand-up pour ça.
Ouais, je comprends.
J'aime trop le stand-up pour ça.
Je comprends.
Genre, à part. Je suis pour donner des chances, je suis pour genre le pardon, à part s'il fait des vraies excuses, un vrai mea culpa. Pas son truc, la bullshit, là. Je vais porter plainte contre celui qui m'a dénoncé pour vol de droit d'auteur. On marche sur la tête, frère.
Ça, c'est une délusion.
Ouais. Sur la vie de ma mère, il a porté plainte, il a appelé Twitter, il leur a dit « on va bloquer les vidéos pour atteinte au droit d'auteur ». Le mec, il dénonce dans des vidéos un vol de blagues.
De droit d'auteur.
Il fait des vidéos cheloues déguisées en personnages où il dit « ouais, moi, je m'en fous, ça me touche pas ». C'est genre son truc. Parce que s'il fait juste un petit peu qu'avouer, tous les avocats, ils vont lui tomber dessus. Tous les avocats américains, ils lui tombent dessus.
Tout le monde va le ramasser. Dès qu'il y a un mea culpa, c'est fini.
D'un autre côté, Gad est aussi backé par tout le monde, par contre. Même s'il l'avoue comme...
Jerry Seinfeld.
Oui! Yo.
Est-ce que vous voulez connaître ma théorie du complot sur Jerry Seinfeld?
Let's go.
Yo, je pense que...
Mais il a posté une photo de Gad le lendemain.
Jerry Seinfeld, il est sur un show télé en France avec Michel Denisot pendant le Festival de Cannes qui se passe à l'extérieur.
Ouais. Quand il faisait la promotion du B-Movie.
Exactement. Ouais. Parce que c'est Gad qui fait la voix de l'abeille.
Wow, en plus, il t'arrête de voler sa voix, le fils de pute.
Il vole même sa voix, même. Et il lui montre un extrait d'un sketch de Gad. Et là, on voit la réaction de Jerry Seinfeld qui dit « Hey, je connais ce sketch. C'est le mien, là. » Tu vois le malaise dans la tête de Gad qui dit « Ouais, ça, non, man, ça, ça, là. » Il bégaye, frère.
Ouais.
Je pense que ce jour-là, Jerry Seinfeld sait qu'avec un procès, il va arriver nulle part. Ce jour-là, Gad Elmaleh, c'est devenu la ch'timpe, la pute.
Peut-être.
De Jerry juste... C'est ma théorie du complot.
Mais en passant, ils ont fait des shows ensemble.
Sur la Jérusalem ensemble.
On connaît pas les... Pour moi, je pense que les contrats sont 0%, 100% pour Jerry Seinfeld. Il a fait, tu m'as volé, tu vas travailler pour moi pendant 15 ans.
Ouais, parce que ça reste que Jerry Seinfeld, c'est un Américain, bro.
Frérot.
Ça reste qu'il est Américain.
Ça reste que c'est un Américain. Ça reste que c'est le premier milliardaire humoriste. Il lui a fait un contrat, il fait, tu vas me rembourser sur 15 ans. Il a produit ses shows aux États-Unis. Il a produit sa série.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'il y a un truc de tu vas me rembourser.
Ouais, le lendemain, il a juste posté une photo random de gars comme j'aime beaucoup cette personne.
Follow this guy. I love him. Yo, man,
je pense qu'il y a un truc de tu vas me rembourser sur le long terme.
Puis il y avait Mike
et je vais pas t'afficher.
Ouais.
C'est ma théorie du complot.
Non, mais c'est smart. Mais ça, c'est à quel point que t'es petit comme personne quand tu voles.
Ouais.
Ça, c'est à quel point t'es petit parce qu'on te tient par les couilles, bro.
C'est ça. Copie comique. C'est copie comique.
Ouais.
Copy Comic qui a tout balancé.
Ouais.
Copy Comic, c'est un YouTuber qui a commencé à... C'est un grand fan d'humour qui se fait aussi aider par des humoristes et des fans d'humour qui lui envoient des trucs un peu bizarres.
Ouais.
Tiens, ça ressemble à ça. C'est Kayron et Baptiste Le Caplin, des humoristes français, qui ont dit clairement, oui, on s'est fait contacter par... c'est pas nous. Au début, ils pensaient que c'était eux, c'est pas nous, mais si on l'aide, on lui envoie des trucs bizarres, tu vois.
Ouais.
Lui, il a commencé avec Gad, mais après, il a balancé sur tout les Jamel Comedy Club. C'est là que j'ai découvert que ceux qui m'ont mis à l'amende à l'époque...
les gars qui t'ont mis à l'amende parce que tu pensais que t'étais pas assez bon. Là, t'es comme bande de fils de pute. Personne n'a écrit une... Et vous avez même pas écrit une blague.
En passant, lui est parti parce qu'il a vu que tout le monde était comme... Moi, je comprenais pas que vous faisiez comme... Vous étiez tout bon. Je comprenais pas c'est quoi le stand-up. Mais dans le fond, je vais être dans le même bateau que vous autres. Moi, je décalise en Nouvelle-France, bro.
Yo, man.
Oh, hey, shit.
Je suis en train de le réaliser en même temps que je vous parle.
T'as fait un esti de bon move.
Mon premier move, ça n'a pas été de venir ici. Hein. Okay. Mon premier move, ça a été de prendre du recul sur ma carrière artistique florissante et démarrante pour vendre des fenêtres.
Tu vois, ça, t'as commencé à vendre des fenêtres.
Yo, okay. J'étais en couple avec une personne d'origine polonaise, mais qui avait grandi en France.
Okay.
J'ai eu une fille à 24 ans, qui aujourd'hui a 18 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller en Pologne pour visiter la famille. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des opportunités de business. Parce que la Pologne, ça venait juste de rentrer en Europe. C'était un ancien pays communiste. Okay. Donc, le niveau de vie était bas. Tu vois, c'est comme si le Mexique, demain, rentrait. Il n'y avait plus de visa entre le Mexique et le Canada.
Ouais.
Et que tu dis, hey, yo, man, hey, Et la paire de sneakers, je peux la fabriquer à 1,45$ et je peux la ramener légalement sans douane, sans rien. Et je peux la vendre ici 120$ alors qu'elle coûte 170$. Je vais
sur
me faire...
toi, t'allais acheter des fenêtres en Pologne.
J'allais les faire fabriquer et je les vendais en France.
Tu les vendais
et je restais trois fois moins cher que le prix du marché français. Mais je les vendais cinq fois plus cher que le prix que je les avais achetés.
Putain, puis pourquoi les fenêtres? Comment t'es tombé sur ce marché-là?
Parce qu'il y a mon oncle. Mon oncle, un jour, il me dit hey! Je ne vais pas vous le faire avec l'accent arabe. Il me fait ta femme, elle est polonaise. J'ai entendu dire que les fenêtres, c'était pas cher là-bas.
Qui lui a dit que les fenêtres étaient pas chères? Comment cette information-là se rend à leurs oreilles?
Ils ont dit Reddit.
Mais comment ça se rend?
Je sais pas.
J'en sais rien, mais.
J'ai entendu dire que les fenêtres, c'était pas cher en Pologne.
Les fenêtres sont pas chères parce qu'ils font pas de fenêtres là-bas. T'as pas remarqué que les Polonais sont très blancs? On va mettre des fenêtres.
Mais non, mais au contraire, ils genre. En Pologne, par rapport à la France, il fait moins 20, moins 25. C'est vraiment froid. Donc, leur qualité, qualité, elle est folle. C'est, genre, là, c'est vraiment des bons. De la bonne cam, de la bonne qualité. Et ma femme, mon ex-femme, avant que je la rencontre, elle avait fait des travaux chez elle. Et à travers ses connaissances à elle de Pologne, elle avait fait venir quelqu'un qui lui avait fait faire les fenêtres.
Ah, OK.
Donc là, je tilte. Je fais, attends, je vais demander à celui qui avait fait machin, etc. Il me dit, je lui dis, c'est quoi que tu as eu comme prix ici, le moins cher? Il me dit, je crois un truc genre 12 000. J'appelle le gars que je connais. Je lui envoie toutes les mesures. Je prends toutes les mesures. Je fais, donne-moi ton devis là que tu as eu. Je copie toutes les mesures. Je fais, c'est ça, ça, ça. Il m'envoie un devis, je crois, à 1 000 ou 1 500. Attends, frère, je vais voir mon client. Je lui dis, hey, je peux te faire la même chose pour 8 000 au lieu de 12 000.
Puis c'est ça le début.
Attends, il me faut un acompte. Il me faut un acompte de 1 500. Le gars, je lui paye cash. J'ai une petite remise.
Oh shit! Fuck, bro!
Sur là, t'as commencé ça directement après le stand-up.
Je
passe de chapeau, je passe de stand-up, machin, à 6 000 dans ma poche.
Cash, direct, frère, là.
Cash, comme ça, cash, cash.
Combien de temps ça dure, ça, cette business?
Man, j'ai épuisé le filon. J'étais l'un des premiers à le faire en France.
Ok, toi, t'es le premier dans tout. Dernier dans rien, premier dans tout, là.
Je t'avais dit, j'étais en avance, man.
T'es comme le premier qui a eu l'iPhone, puis tout le monde comme, qu'est-ce que tu fais, bro? C'est pas quelque chose à rien, ça.
Mais c'est ça qui s'est passé, parce que, en vrai, j'ai fait de l'argent. Mais tu sais, moi, je viens d'une famille pauvre. J'ai pas été éduqué financièrement, tu vois. Donc, j'ai fait n'importe quoi avec l'argent. Je savais pas ce que c'était les impôts, je savais pas ce que c'était les taxes, je savais pas ce que c'était une administration, mettre de côté. J'ai confondu chiffre d'affaires et bénéfices. J'ai fait n'importe quoi. J'ai amassé du cash, j'ai acheté des voitures, j'ai voyagé, j'ai mis à l'aise, je partais en vacances. Moi, je faisais des vacances à 29 personnes, toute ma famille, dans une grande villa en face de la mer.
Le gars vend un immeuble. Là,
Il a vendu une fenêtre de IKEA. Everybody to Monaco!
Hey, Jacob! Jacob,
c'est quand même malade.
Vite ma mère,
c'est quand même fucking dead.
Hey, je pensais ça comme ça. Tu sais, genre, quand je regardais un truc qui me plaisait, je fais. Ouais, trois fenêtres.
C'est fou, bro.
Ça, c'est une fenêtre et demie. Ça, c'est...
Attends, le monde calcule en argent. Lui, compte en luminosité.
En fenêtres.
Est-ce que tu te rends compte? Lui, c'est des ISO, bro. C'est de la lumière.
Jusqu'à un moment donné, je comptais en mètres carrés de fenêtres. Je fais, il me faut combien de mètres carrés de fenêtres, là, pour...
Si je fais trois terrains de football, c'est fini. Je
Je pense que je peux acheter la Tasmanie avec huit fenêtres, bro.
Yo, man. Et j'ai fait ça... Après, les impôts, ils me sont tombés dessus parce que, tu sais, il y a des gens qui ont commencé. Je faisais de la concurrence.
Les impôts, ça ruine la vie de tout le monde, tout le temps.
Je faisais de la concurrence.
Tu sais, les affaires légales.
Non, mais j'ai été attaqué de toutes parts. J'ai fait de la concurrence sale à des artisans français qui payent leurs taxes, qui ont des employés, etc. Et ils m'ont vu débarquer à chaque fois. Ils regardaient un panneau de chantier qui était réalisé. Radis fenêtre. Ils font what the fuck.
Made in Alibaba Express. C'est comme fils de pute, bro.
C'est qui lui?
Fait qu'il y a du monde qui t'ont snitch, qu'il y a d'autres compagnies.
Tu as des lois de concurrence déloyale en France. T'as pas le droit
Tu pouvais le faire parce que c'est, ça s'appelle le libre-échange dans la communauté européenne.
Ok.
La Pologne, c'est devenu instantanément la France. Il y avait zéro douane. J'allais jusqu'en Pologne. Je faisais des allers-retours parfois. J'allais jusqu'en Pologne. Je passais par Belgique, Hollande, Allemagne. J'arrivais en Pologne. J'avais zéro douane.
C'est l'Union européenne. C'est tout.
Les frontières et routes barrées. Circulation locale seulement. Je suis là.
Les frontières sont ouvertes.
Ma femme, elle est là. Elle est ma blonde.
Je rejoins ma femme.
Ouais. Puis combien de temps t'as fait ça?
J'ai fait ça 4 ans. Première faillite.
Première,
il y en a eu 3. Après...
Est-ce la première faillite t'a fait mal? Ou t'es conscient qu'il va en avoir deux autres? T'étais déjà au courant? C'est la première étape avant la
Quand elle m'arrive, je crois que c'est la dernière.
C'est ça.
Dans l'instant, là, je crois que c'est ma dernière.
Quand tu signes les documents, parce que ça me fait bander les faillites. Quand tu signes puis t'acceptes que comme OK, c'est fini, là, j'ai tout perdu.
Ouais.
Comme mon nom est ratifié, là, j'ai plus le droit de voir une carte de crédit de mes yeux pour les 7 prochaines années. C'est quoi le feeling quand tu finis de signer? Est-ce que t'es comme ouf, au moins j'ai plus ces dettes-là entrepreneuriales, comme ces dettes de business sont à la poubelle, ou tu signes puis t'es comme OK, peut-être je devrais juste avoir un 9 à 5 puis plus m'approcher d'entrepreneuriat en général?
J'y ai pensé.
OK.
Mais ça m'est vite parti de l'esprit.
Parce que t'es un accro à la drogue, toi, puis ta drogue, c'est le business.
C'est de louer des Lamborghini à Dubaï. C'est ça, c'était devenu ça mon objectif de vie.
OK.
Et donc ça arrive. Tac, j'arrange mes affaires, je fais OK, les fenêtres c'est mort, mais tu sais quand je faisais mes chantiers, on me demandait plein d'autres choses, tu vois. Je fais OK, ben je vais faire un truc plus entrepreneur général, tu vois. Donc j'ai ouvert une autre société, entreprise générale.
Et toi, donc tu te réveilles ma tête et comme OK, on va choisir 3 mots. Puis ça va être mon nouveau venture. Ça va être ma
Wiktionary.
Ça c'est plus Radis Fenêtre, ça s'appelait Radis Fenêtre Rénov.
Oh shit.
On se demande pourquoi la planète va exploser.
Les gens signaient des chèques.
Ça n'a pas rien à voir.
Je rajoutais juste le OV.
Cela, t'es passé des fenêtres à l'entrepreneuriat général. Excuse-moi, entrepreneur général. Tu faisais de la construction.
Okay. Un petit peu, ouais.
Un petit peu, ça. Moi, je faisais pas de la construction, mais les 3 Polonais que j'ai ramenés.
Ça a l'air d'être une blague, mais je vous jure, il y avait de l'argent en masse, man.
C'est fou.
Comment, qui fait confiance à.
Je sais pas.
Comment tu trouves des gens pour ça?
Ouais, comment tu trouves des gens pour faire comme OK, j'ai besoin de quelqu'un, fais ma toiture.
Non, mais
comme...
Attends, là, vous voyez le radis rigolo qui raconte des blagues.
Oui, genre, là, je vais t'arriver en soute.
J'arrive, je connais mon sujet.
Ouais.
Là, tu me demandes de changer toutes tes menuiseries. On fait le tour, je mesure, là, te dire oui, le gars connaît son affaire.
Oh shit, OK.
Charnière, gond, double vitrage.
Oui, c'est sûr que t'étais pas
aussi
un.
Au bâton,
J'aime ça, il dit des mots depuis tantôt, puis je suis comme.
Ouverture à la française.
Oh, mais c'était pas un arnaqueur comme ça.
Non, je sais,
t'as vendu le produit pendant 4 ans. C'est juste que cette première compagnie n'a pas fonctionné. On va faire une.
Mets-moi dans un domaine, comme quand je travaillais, quand je vendais des montres, man. Mouvement suisse, mouvement japonais, vitre saphir.
Quand est-ce que t'as vendu
des montres? Il dit des mots, bro.
Je te jure, frère.
T'es fucking bon. T'as vendu aussi des montres?
J'ai vendu des montres quand je suis arrivé à Paris. C'était ma job de jour.
Ok.
J'ai fait ça 2 ans et demi. J'ai pété les chiffres.
Que
je vendais
quel genre de boutique? C'était une boutique de luxe ou c'était une boutique de...
Non, on vendait des petits produits de luxe, mais pas que. On pouvait vendre aussi des swatchs et des fossiles.
Okay.
Mais on vendait aussi des Tag Heuer, des Tissot. Okay.
J'ai vendu des montres pendant un petit bout. Puis ce qui est nice de vendre des montres, c'est que tu peux vendre le rêve à n'importe qui.
À n'importe qui.
T'as une gamme de montres pour tout le monde.
C'est ça.
Puis quand des gens arrivent, tu peux dire n'importe quoi. Puis ça va leur faire sentir...
Mais comment dire n'importe quoi?
Tu vas mettre une montre rouge sur leur poignet. T'es sûr que... Puis là, toi, il faut que tu la sortes du stock, là, parce que ça fait 30 ans. Elle va sortir pas, puis ton boss, c'est comme tu la sors pas, t'es renvoyé. Tu vas mettre, puis t'es comme... Le rouge, ça vous va bien? Parce que je sens que ça exprime vraiment quelque chose que vous essayez. Ça rend des jeans, ça peut être classe, ça peut être casual. Tout peut être classe et casual. Comme
et
ça veut rien dire.
Et puis si ça vous plaît pas, vous savez, les tailles sont standards. J'ai un assortiment de bracelets, si vous voulez.
Exactement, parce que là, tu vends les bracelets, puis après, tu vends des accessoires.
Ah, pour les. Ah.
C'est que tu vends une montre, peu importe quelle montre, à quelqu'un qui connaît pas vraiment les montres, tu peux lui faire croire n'importe quoi.
Tu lui vends du rêve.
Tu lui fais une montre orange avec fucking le cadran vert. T'es comme ça peut passer avec une tenue soute plus classe.
Tu sais ce qui nous aidait, nous? C'était quand les montres, elles sponsorisaient des films. C'est genre... Ça c'est la
comme James Bond?
Ça, c'est la... Ouais.
Mais ça, c'est
James Bond.
James Bond, exact. Même lui, il s'est vendu à lui-même une montre qui était... Comme ça,
il a dit, je suis James Bond des fenêtres!
Seamaster, Omega, c'est James Bond.
Oui.
Mais quand t'as une Hamilton, tu dis, hey, ça, c'est celle dans iRobot. Avec Will Smith.
Toi, tu vas être Will Smith?
C'est la même marque, ça.
Veux-tu claquer?
T'as vu comment il la slap?
Mais ça marche.
Tu veux être galant?
Ça marche, vraiment. Ouais. Tu dis, ouais, ce modèle-là, il apparaît dans, je sais pas moi, Interstellar ou un truc comme ça.
Ouais.
Oh shit, moi, quand je vais dans une place de monde, je fais juste, elle est où la moins chère? C'est où la liquidation? Ah, c'est là?
C'est quand même une entreprise de charlatan. Sur là, t'as fait de l'entrepreneuriat, entrepreneur général, t'as fait de la construction. Les restos, ça rentre quand là-dedans?
Oh, les restos, ça a été toujours par... Un peu éparpillé, un peu tout le temps.
Il avait pas envie de faire l'épicerie, fait que s'ouvrir un restaurant.
On dirait que les entrepreneurs immigrants, c'est plus fort qu'eux. Peuvent avoir une compagnie de construction qui fait des milliards par année. Ils
on
ont
doit
besoin
nourrir
d'ouvrir
les gens.
Ils ont besoin d'ouvrir un resto pour faire faillite. Ils n'ont pas, et comme ça doit.
Toute mon enfance, ma mère, elle m'a mis de la nourriture sous le nez. Là,
ouais.
C'est dans les gènes. On est obligé de rendre heureux et de nourrir les gens. Les restos, ça a été vraiment les deux, trois dernières années en Pologne. Mais. Il y a eu les restos d'une autre manière. J'ai été valet de parking dans un restaurant de luxe en France. Ça a été, je crois, mon année la plus rigolote. en termes de travail au monde. Ça et réceptionniste de nuit dans un hôtel.
En réceptionniste de nuit, tu dois avoir des
trucs. Tu dois avoir des créatures. Moi.
Yo, man. En plus, t'es dans le 7e à Paris, un quartier vraiment bourgeois. Et genre, j'ai reçu Michael Scofield. C'est genre le gars de Prison Break.
Lenny
Kravitz. La petite fille de Picasso. C'était vraiment un restaurant de luxe. Les princes saoudiens, j'en parle même pas.
OK.
Moi, je connaissais pas les voitures avant ça. C'est là que j'ai découvert ma passion pour les voitures. C'est pour ça que, tu sais, devant, vous avez des, vous avez vraiment des belles voitures pas loin. Je les regarde parce que j'aime ça. T'sais. Et un jour, il y a un prince saoudien qui arrive. Et le maître d'hôtel, il me dit, Radi, lui, là, il adore les voitures, il adore les voituriers. Le minimum qu'il laisse en pourboire, juste parce que tu as garé sa voiture, c'est 200 euros, c'est 300 dollars. Juste garde sa voiture, il va te faire plaisir. Là, il arrive avec une Ford Mustang Shelby 500.
Ouf.
C'est genre, elle vient, c'est le dernier modèle, parce que c'est la Shelby 500, elle est connue, mais c'est le dernier modèle. Comment c'est placé? C'était à l'atelier de Joël Robuchon. Gros restaurant.
Joël Robuchon, c'est le...
Il est mort, mais c'est genre, c'est top, top, top.
C'est lui qui a inventé la cuisine. Là.
La purée de Joël Robuchon.
Le chef français le plus connu, je pense, de toute l'histoire.
Il avait une émission de télé, c'est malade. Quand tu vas dans un atelier chez Joël Robuchon, il y en a un au Four Seasons à New York, il y en a à Hong Kong. Et... Bref, l'atelier, c'est que... Genre, t'as des tables un peu qui donnent sur la vitrine, qui donnent sur la rue. Lui, il se place là avec son garde du corps. Il me laisse sa Ford Shelby en plein milieu du carrefour. En plein milieu du carrefour qui est en face à un croisement. Il y a beaucoup de circulation, on est à Paris. Il me dit, je monte, je fais le tour. Déjà, je tombe sur le prince. Tu vois, regarde, déjà, nous, on n'a pas le droit de bouger les sièges.
Ouais.
Pour le confort du client, il doit revenir, il doit retrouver sa place normale.
Ouais, puis t'es comme Aladdin, je veux que tu sois bien assis dans ton tapis.
Il faut pas toucher à son siège. Ouais. Je tombe sur le prince avec les jambes les plus longues du monde.
Frère. Le gars est 12 pieds 9. Quand il voit même plus la frère.
C'était ça. Je peux pas toucher à son siège. Je peux pas toucher à son siège parce que c'est les règles.
Sinon, son tic va te manger.
On est dans du haut de gamme. Là. Tu touches pas au siège. Ouais. Genre, le client, c'est pas il est roi, il est genre empereur. Et là, je suis au bout de mes doigts parce que j'ai des petits. Lui, il a 3 paires de genoux, j'en sais rien, frère. Il a 4 articulations, c'est un truc de fou.
Ça va, Shaquille O'Neal de l'Arabie Saoudite?
Je suis au bord du siège et je suis au bout des trucs, tu vois. Je suis comme ça, tac. Je fais le tour du rond-point parce que c'est un sens interdit, donc je suis obligé de faire le tour du rond-point. J'arrive sur le croisement où il y a beaucoup de circulation. Je cale parce que c'est une manuelle. C'est une sportive, c'est une manuelle.
Perpendiculaire à la rue.
Le moteur s'arrête et lui, il est à la vitrine avec son garde du corps et il voit la voiture bloquée au milieu du carrefour. Et moi, attends.
À côté de la tour Eiffel, là.
Et toi, il ne voit pas. Il voit juste ta tête.
Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais des cheveux avant, il voit juste du gel. Bref, je suis là. C'est pas, que je cale, ça arrive, c'est pas grave. Erreur, machin, ça peut arriver à tout le monde.
Pas en U-turn sur la...
Je démarre, j'arrive pas à démarrer.
Ah oh non.
Je connais pas moi les voitures de sport. J'arrive pas à démarrer. Je sais pas qu'il faut appuyer sur l'embrayage.
Je suis pas bien pour toi.
Je sais pas qu'il faut appuyer. Non, sur le frein, pardon. Il faut appuyer sur le frein pour démarrer. Tu t'appuies sur le frein pour démarrer sur toutes les voitures de sport. Une voiture lambda manuelle, tu tournes, ça marche. Ouais. Faut la mettre, tu la mets au point mort.
Ouais.
Si tu la mets en première, tu vas avancer. Voler, ouais. Mais si tu la mets au point mort, tu vérifies ça, tu tournes la clé, ça avance. Une voiture de sport avec plus que certains chevaux. T'es obligé d'appuyer sur le frein parce qu'on sait jamais si elle est en première, man, c'est fou. Donc, je sais pas, moi, je connais pas les voitures de sport, je sais pas. Eh, man, tu sais comment 5 minutes, c'est long quand, quand tu bloques la
quelques
circulation.
Quelques instants, je suis en train de capoter quand je vois fucking Aladdin qui me regarde, il va me stabber, bro, t'es sérieux?
C'est ça, je vois Aladdin. je vois Aladdin qui dit 2 mots à son gorille. Il se lève, il met sa veste en cuir. Il sort, il marche tout doucement, il flex en plus, bâtard, en me regardant.
Marche tranquille.
Il fait durer le moment, tu sais. Moi, je suis comme ça, je fais « I'm really sorry ». Tu sais, j'étais en sueur, « I don't know how it works. Really, I'm so sorry. It's the first time. It's ridicule. Il sort, il fait « Move yeah. ». Wow, il a démarré. Moi, tu sais, genre, je lui laisse une place.
Toi, tu le regardes, t'es comme « You have long legs. Very nice legs. I like your calves.
You have a long legs. » Et je fais une petite place devant le resto, il se gare. L'affaire se passe. Il mange, je suis pas bien. Le maître d'hôtel, il me regarde ça avec un regard genre de... Tu sais, genre...
Si t'as encore ta job ce soir,
c'est peut-être ta dernière journée en France. Ouais.
Le prince, il se lève, met sa veste, il fouille dans sa poche. Là, il me sort 20 euros. Ce qui représente, genre, c'est comme si tu laissais genre 0,1% de pourboire là, dans une grosse note. Ouais. Là, genre, je me suis tellement senti nul, inefficace.
Même le 20 euros, il te regarde.
Même le 20 euros, je sais, j'avais envie de le dire, c'est cynique.
Moi, ça, je pense que j'aurais donné plus de tips, si. Comme on a vécu de quoi, bro?
On a vécu de quoi? Il y a fucking totals, il y a fucking fortune. Il y en a sûrement une sur la planète, c'est même pas l'argent, c'est le fait que ça existe même
mais
pas.
Mais on a eu des grosses rigolades. Des fois, on avait des Mercedes à garder. Et, on
mais
allait...
ça te fait pas suer du cul de, quoi? De devoir garer une voiture tellement chère, tellement belle, de comme. Tu sais pas comment ils contrôlent. Moi, les valets, ils ont trop de confiance, là. Je comprends fake it till you make it, mais à un certain point, si c'est une 1 de 1 Corvette fucking des années 62.
Je faisais pas de stand-up à l'époque, mais si j'avais fait du stand-up, j'aurais eu du matériel. En malade, tu sais, genre, je trouve que les riches sont les personnes qui ont le moins le sens des réalités. Ils sont capables de refuser que, genre, leur garagiste, leur femme ou leur mari prennent la voiture. Et genre, ils arrivent devant un restaurant de luxe et ils donnent la clé à un parfait inconnu qui vient de sortir de prison.
Qui fait le salaire minimum puis qui n'a pas pu trouver un autre job nulle part. C'est pas des professionnels de la conduite, les valets.
Yo, tu penses qu'il y a du gel, mais c'est de la sueur que le gars a, bro. C'est
malade. C'est malade.
C'est
comment...
fucking vrai, ça. C'est comment pas, y a aucune formation pour être un valet.
Non, non, non. T'as juste un permis.
Oui, mais par contre, t'as pu conduire des essais de voiture. Ouais. T'as été capable de... comme. Je trouve ça cool de cette job-là, mais yo, tu fais confiance. Des fois, il y a ces équipes de 12 ans. Là.
Ma plus belle vengeance, c'est que j'ai été valet de parking pendant un an, là. Et après, j'ai fait les trucs des fenêtres. Et je suis revenu garer ma Porsche et mon Audi R8 au valet de parking. Je suis descendu, j'ai regardé le maître d'hôtel. Je fais, hey, j'ai réservé le coin. C'était la meilleure table, j'ai réservé.
OK, Audi R8, t'as vraiment pas payé tes taxes, là. Il y a quelque chose de... Toi, t'as décidé que ton salaire brut, c'était ton salaire net. Puis c'est ça le truc, tu t'es permis.
Exactement.
Une petite location,
oui. Là. J'ai vraiment bien vécu.
Fuck.
J'ai bien vécu dans le sens où je sais ce que c'est que d'avoir de l'argent. Ouais. Je sais ce que c'est d'avoir des belles choses, une grosse maison, des grosses vacances dans des palaces. Et je sais ce que c'est tout ça. Et aujourd'hui, la chance que j'ai, genre, ma compagne aujourd'hui, elle a de la chance d'avoir quelqu'un qui a vécu ça. C'est-à-dire que le jour où ça va revenir.
Okay, je pensais que tu sais comment ça fonctionne.
Ouais. Je sais qu'elle sait que ça va être fini.
Oui.
Je pensais que tu allais dire comme la journée que ça va arriver, ça va jamais arriver. Je vais juste dire comme moi, je sais c'est quoi. On va jamais goûter à ça. C'était incroyable, mon amour. Je vais te raconter des histoires. Dû... Tu vas saliver, mais on va plus jamais revivre ça.
T'aurais dû être là il y a 15 ans. Wow.
2003.
Il y a 15 ans, moi. J'étais à mon prime. Wow.
2006-2008. On va jamais le revoir. Ouais. Mais 2006, hey,
j'aurais dépanné Rachid Badouri à cette époque.
C'est incroyable.
S'il avait eu besoin d'argent, je l'aurais dépanné.
Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est arrivé? T'as fait ta première faillite, t'as fait ta deuxième faillite. As-tu vu la perte immédiate? Comme, as-tu vu du jour au lendemain, tranquillement, t'es comme « Ah fuck, là, il faut vendre l'auto. Ah fuck. » Est-ce non, que tu arrivé. L'as senti ou c'est arrivé comme
non,
ça?
C'est arrivé d'un coup. Tu vas à la banque, tu penses que t'as de l'argent. Et là, ils te disent « Ah non, les impôts, ils ont saisi. »
Oh fuck.
Il vous reste le minimum 480. Et toi, tu y vas pour retirer un petit 12 000.
Tout prix. Inconscient? Savais-tu que ça allait arriver ou t'es comme
ça? Ah, tu sais, il y a des petits signes.
Mais est-ce que tu regardes de banquier?
Il y a trois petites enveloppes, t'es comme, eh, sac de...
Il y a des fourgons blancs garés chez toi, tu sais, pendant plusieurs jours. Tu te dis qu'ils bougent
quoi?
Pas. Non, je te connais.
OK.
Genre ouais, comme, FBI qui le spy.
Mais t'arrives à la banque puis tu veux retirer 12 000, puis là, la personne te dit, t'as pas d'argent, t'es comme, mais tu peux-tu comme, me donner 20 euros, je dois mettre du gaz dans ma Lamborghini?
C'est ça.
Ouais, c'est ça, bro.
C'est exactement ça.
Oh shit, fait que c'est... Toi, tu te rends compte quand tu vas à la banque.
Je me rends compte quand je vais à la
c'est
banque.
C'est pas que tu reçois une lettre du gouvernement. Là,
j'ai tellement dit... déménagé, man, que ils avaient même plus mes adresses.
Ah. Tu le savais qu'est-ce qui allait se passer.
Il était plus que conscient. C'est pour ça que c'est tellement plus délicieux.
C'est pour ça qu'il faisait des fenêtres, parce qu'il savait qu'il allait sauter.
À partir de la première année, je rentre dans un système de sursis. Je me dis, ça peut arriver là dans un mois, ça peut arriver dans 5 ans.
Mais c'est tellement plus délicieux, une R8.
Sursis, c'est genre, ça peut arriver à tout moment. Là.
C'est ça, c'est comme t'es tout le temps en edge. T'es pas sûr de ce qui va arriver.
Quand tu prends une peine de prison avec sursis, genre, tu vas pas aller en prison, mais à la moindre bêtise, tu rentres.
Ok, moi je comprends.
C'est tellement plus délicieux.
On sait que c'est ta faute.
C'est tellement plus délicieux. Une R8, c'est tellement plus délicieux quand tu sais que tu vas la perdre.
Ouais.
Oh, shit.
Tu la conduis chaque comme la dernière cigarette quand tu sais que tu vas arrêter. Tu prends chaque puff puis t'es comme là, ça va être les dernières parce que soit je meurs, soit je veux vivre.
Ah, j'ai fait des vrais moves avec la R8.
Ah ouais?
J'en ai vu une garée là juste devant. Ouais, j'ai fait du 314.
Ça, c'est.
Puis pas les routes de Québec, le gars, t'es comme.
Non, 314 avec les routes de Québec, man. T'es loin, là. Elle est tombée derrière.
On va la laisser vivre. Comme
ouais, 300. Et avec la Porsche 900. Avec la Porsche 911, ouais, 304.
Mais t'as découvert ta passion des autos à partir du valet, mais t'avais-tu déjà tes autres business que t'avais fait?
Le valet, c'était vraiment. Il fallait que je fasse de l'argent pour économiser parce que j'avais envie d'aller jouer à New York.
Tu voulais être retourner jouer.
Tout le temps stand-up, c'est ça. Fait que t'avais ces compagnies-là, mais au bout du compte, t'étais comme, je sais que je vais faire du
j'ai
stand-up.
J'ai toujours
de ma
su
vie.
Que j'allais revenir au stand-up.
Ok.
J'ai toujours su. Même quand j'étais en train de vendre des fenêtres, même quand j'avais mes restos en Pologne, dans un coin de ma tête, c'était genre, mon histoire, elle est comme ça. J'accumule des histoires pour qu'un jour, j'ai assez d'histoires pour raconter à deux immigrants dans un podcast.
D'où est-ce que ça vient, tu crois? La facilité à ouvrir des business. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas enclins envers l'entrepreneuriat. Puis comme, là, t'as débarqué en Pologne, puis t'as parti une entreprise. Comme même moi, si je veux partir une entreprise documentée ici, j'aurais de la difficulté. Je suis né, j'ai grandi ici. Ouais. Mon passeport est un passeport canadien. J'ai toute la documentation canadienne et québécoise. Puis même là, partir une entreprise sur papier, ça me fait un petit peu suer du cul. D'où est-ce que ça devient, tu penses, cette facilité à, ah, tu sais quoi, on l'ouvre, puis au pire, ça ferme. Puis comme, il arrive ce qui arrive.
C'est vraiment un sens. Du business, c'est inné ou c'est pas, tu l'as ou tu l'as pas, c'est genre tu dois l'avoir. Moi c'est ça, c'est à chaque fois que je regarde quelque chose, à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis quelle opportunité de business il y a autour de ça.
Oh fuck, fait que le stand-up c'est plus ta passion, puis tout le reste à côté c'est plus les 24.
Non mais même le stand-up je le fais en mode entrepreneurial.
C'est sûr que oui,
t'as remarqué, t'as vu. Genre, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'organiser des choses, je produis mes shows, je vois des humoristes, man, ils ont 856 heures de matériel.
Ouais.
Mais ils attendent qu'on vienne les chercher, d'être produits, d'avoir une équipe, etc., pour partir et pour faire juste l'artistique. J'arrive pas, moi, ça. C'est genre, moi, j'avais 37 minutes et demie de matériel. OK, je lance mon heure.
Je boucle le centre belle, c'est fini, on y va.
Non, mais c'est ça. Tu sais, genre, on peut en parler, là. J'ai pris le terminal 5 fois.
Ouais.
Je vois des gens, ils ont vraiment beaucoup plus d'expérience que moi. Ils ont beaucoup plus de matériel que moi. Et ils bégayent à juste le louer une fois, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis dans un délire, j'ai besoin de challenge. On verra ce que ça va donner. Je vais mettre en place les actions qui font que ça va fonctionner.
Puis est-ce que ça peut pas ne pas fonctionner, en fin de compte? Parce que peu importe, il y a combien de personnes qui se pointent au terminal. Non, je l'ai fait 5 fois.
Oui, il l'a fait 5 fois, ouais. Est-ce que, comme t'es... C'est qu'on dirait que... Est-ce que t'as on dirait cette mentalité de comme l'argent, ça existe pas? Parce que tu sais, comme il y a des frais... Tu sais, je sens que beaucoup, il y a du monde qui stresse de faire, on va dire, le terminal, le bordel, le théâtre Sainte-Catherine, qui font comme genre, j'ai pas envie de louer la place parce qu'imagine-toi si je perds de l'argent.
Tu vas perdre combien, man?
Ouais.
5 fois, 4, tu perds 2000 au pire.
Yo, man. Tu sais combien de restos tu fais à l'année qui t'amène à ce chiffre-là, man? En 4 mois, t'as fait 2000 $ de resto. Là, on parle genre d'être dans un endroit, d'avoir de la visibilité, de travailler tes chiffres.
C'est de travailler tes chiffres.
Même s'il y a 25 ou 30 personnes, tu vas travailler tes chiffres dans des bonnes conditions, avec des gens qui vont venir t'écouter, tu vas évoluer dans ton truc. C'est genre, je suis pas inconscient, je vais pas prendre, l'Olympia à 10 000 $, où là je vais me mettre dans une vraie merde. Là. On parle de move, genre, on peut.
C'est que tu le calcules comme. C'est ça, t'es quand même business, que tu vois les chiffres, tu fais comme. C'est logique, bro. Si je perds, c'est ça.
Si je perds, maximum, c'est ça.
C'est ça, oui, exact.
C'est genre.
Tabarnak.
Dans le temps là, que ça va me prendre pour y arriver, plus le petit loose que je vais avoir, je peux le faire, là.
Puis il y a quelque chose que les gens réalisent pas. Que ta salle soit pleine ou qu'elle le soit pas, s'ils voient plusieurs dates, c'est juste pour montrer à quel point tu es en train de travailler sur le matériel.
Exactement.
Puis c'est que le monde va voir l'effet boule de neige, puis le monde qu'ils ont raté les 5 terminales, puis ils voient que tu continues d'annoncer des dates, sont comme...
Et t'es toujours là.
T'es toujours chose là, que t'es je toujours manque, dans leur face.
Et tu postes.
Il y a quelque chose que je manque.
Moi, et ça s'est bien passé. Et les gens viennent, et les gens reviennent.
Exact.
Et c'est juste... Tu sais, c'est comme pour tout. C'est comme pour les podcasts, là, comme le travail que vous faites. Je pense à un moment donné, il y a la régularité qui rentre en... La persévérance et la régularité qui finit toujours par payer.
Puis d'un point de vue business, c'est la même chose. Tu foires 3 entreprises pour que la 4e fonctionne.
Exact.
Personne a fait une entreprise, ça puis ça a été un succès dès le début. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Pas pour rentrer dans les trucs cheesy de comme « you get hit, you get back up ». C'est pas ça, c'est que tu dois commettre des erreurs.
Sans prétention, je suis la preuve vivante que, genre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de parcours tracé. Et ouais. Genre, t'es genre, je suis la preuve vivante que tu peux y arriver par l'échec.
T'es passé d'une R8,
ouais.
T'es passé de rien,
passé
à faire de la scène, être connu, à rien. À des petits jobs, partir une entreprise,
t'as un char à Dubaï.
La grosse vie, à rien, à repartir des entreprises, c'est comme tout. Il faut que tu essayes quelque chose pour avoir quelque chose.
Exactement. J'ai ouvert des restos, là, c'était mes 2-3 dernières années en Pologne.
Quelle bouffe, quel type de bouffe?
Oh, j'avais appelé ça Francuska Farma, la ferme française en Pologne.
Tu parles polonais?
Tak, ja mówię bardzo dobrze po polsku.
Straight up, là.
tak, nie, nie, tu, nie, nie, bardzo, j'aimerais... nie bardzo dobrze.
Bo depuis tantôt, j'étais comme, yo, ça va le nazim?
Tu comprends, mais...
Tak, rozumie też.
Que...
On dirait que c'est de l'allemand.
C'est très proche?
Nie, po polsku jest po polsku.
Po polsku, non, excuse, l'Autriche puis l'Allemagne, c'est très proche, je suis en train de dire la Pologne.
Ouais, peut-être la République tchèque. Le tchèque et l'ukrainien, ça ressemble un peu.
Fuck, qu'est-ce que c'est malin.
Et... Tu sais, quand j'ouvre, c'était des restos français, ouais. Je vendais des petits sandwichs, des croissants.
Dans
je
le petit
des
cafés, café, là, un bistrot, ouais, là.
Un café, mais j'avais fait ça cute, t'as vu, c'était ambiance bois, tu sais, belle petite déco et tout, nan, nan. Tu sais, quand ça s'arrête, fuck that shit. Tu sais, je revends les locaux, en plus, c'était juste avant la pandémie. Genre 3 mois avant que ça commence la pandémie, je revends tout le bazar, je solde mes dettes et je me dis, vas-y, je suis sur la route, je suis en direction de la France, dans la voiture, ma voiture de leasing. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre dans mon appartement. Le reste, je l'ai laissé. J'arrive devant chez moi. Mon tank, il est vide. Et j'ai plus que 10 euros dans ma poche.
T'as ça, plus rien.
Après tout ce que je vous raconte là, ouais. J'ai plus que 10 euros dans ma poche au mois de novembre 2019.
T'as 40 ans.
J'ai 40 ans. Et je suis sur la route et je dis, je vais reprendre le stand-up. J'appelle ma sœur. Je vais reprendre le stand-up. Peut-être je vais venir chez toi à Paris. J'avais même pas en tête l'idée de Montréal. J'arrive, je renoue contact avec des amis. À Lille, dans la région. Et il y en a un qui me dit « Hey, j'ai un pote à Montréal. » Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je ne vais pas repartir à Paris parce que tous les gars avec qui j'ai travaillé, c'est devenu des huge, tu vois. C'est devenu des stars. C'est ouais, devenu des vedettes. Tough, ouais. Ça va être tough, tu vois, genre de...
Tu ne penses pas que tu aurais pu pouler une plug ou ils vont
non,
se
non, mais avec mon
ans,
expérience et mon niveau, vous m'avez vu recommencer ici. Vous ouais. avez vu, tu sais, genre, il y a eu quand même une évolution.
C'est sûr que oui. Ouais.
Tu sais, genre, le niveau de l'époque, là, ça m'aurait grillé plein de plugs, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, ok, hey, je vais aller travailler en scred, je vais aller travailler discrètement ouais. à Montréal. Et après, j'arrive ici, la pandémie. On va oublier ces histoires de pandémie. J'adore être ici à Montréal. J'adore ouais, l'ambiance ouais. du stand-up ici. Pour moi, j'ai repris le stand-up à zéro ici. Et si je dois me considérer artistiquement, quoi comme nationalité, pour moi, je suis un... Qu'on le veuille ou non, pour moi, je suis un humoriste québécois. Tous mes gigs, tous mes trucs, tous mes skills, je les ai appris ici. Ouais. Et genre, ma carrière, je vais la faire ici. T'sais. Je suis parti ouais. en France pour jouer, mais ma carrière, j'ai envie de réussir ici. J'en suis convaincu, je l'ai intégré, ça. Genre, ouais. Je veux réussir ma carrière au Québec, fin de l'histoire. Ouais. Ma copine, c'est ma compagne, elle est québécoise. Mais mes amis artistiques sont québécois. Et tant mieux si je retrouve mes amis français humoristes. Mais là, je vais les retrouver avec genre, une évolution, une expérience et tout.
Ouais, tu vas être rendu dans un point que t'es comme genre, t'as pas vu le mauvais, t'as pas vu comme quand ça.
Ouais,
quand j'arrête d'apprendre à me connaître.
Ils vont l'imaginer, tu sais, ils vont l'imaginer.
Mais c'est sûr, parce qu'on doit passer par là.
C'est sûr, tu dois passer par une souffrance, c'est sûr. Donc, juste pour te dire que quand
t'as
j'arrive 10
euros,
ici.
T'arrives ici.
J'ai dit 10
c'est
euros.
C'est nos parents, par ça.
10 euros, bon.
C'est nos parents. Ouais.
J'ai 10 euros. Et je me dis, ok, j'ai les aides sociales pendant 4 mois, ça me fait combien d'argent? Ok, il y a un pote qui veut que je lui écrive des blagues avec lui. Ok, j'arrive à économiser 3 000 dollars. J'arrive avec 3 000 dollars à Montréal, that's it. Je connais personne et j'ai ça dans la poche. Et pour te dire que je suis passé d'une R8 à une colocation avec 5 jeunes dans une chambre pas fermée, à appeler ma mère pour dire, hey, là, je suis vraiment dans la merde. Il faut que tu vendes des bijoux là, pour m'envoyer de l'argent, sinon je vais mourir là. Je suis passé de ça à aujourd'hui.
Yo, ça c'est en 3 ans, puis il faut qu'on explique quelque chose à ceux qui écoutent. Radhi anime une soirée en Abitibi.
On y va là?
On y va là.
Radhi, ça fait 3 ans qu'il est ici, incluant une pandémie, ça veut dire ça fait 12 semaines il fait du stand-up.
Le gars, il parlait avec un prince saoudien, puis aujourd'hui, il est en fucking une Val d'Or.
Non, mais juste pour te dire, ouais. Si tu te mets pas out there,
ouais, ça
dans n'importe quoi, tu vas rien avoir. Radhi! Ouais. Un maghrébin français qui avait des restos en Pologne, après 3 ans, anime une soirée régulière de stand-up en Abitibi.
Elle est vraiment cool en plus.
Puis dans pas longtemps...
Une super cool soirée qui roule. Puis t'as des humoristes ici que ça fait 15 ans qu'ils font ça, qui ont peur de poser une question à quelqu'un, de « hey, peut-être
».
Faites-vous dire des noms au début, t'as fait le bon move, parce que c'est au début que tu peux te permettre de poser des questions fucking con. Aller... harceler le monde, puis courir après le monde, puis yo, please, je veux un spot, yo, si, yo, ça. Parce que là, comme après un certain point, tu réalises que là, j'ai une certaine. Pas de notoriété.
Avec le recul, je me rends compte que j'ai fait des moves, tu sais, genre, qui étaient pas adroits, qui étaient un peu maladroits.
Mais c'est quand même qu'on voit l'acharnement. On voit à quel point il est passionné.
Mais les gens, ils se disent, OK, c'est pas genre il est maladroit, il est juste naïf, il sait pas comment ça fonctionne. C'est pour ça, moi, quand je vois les petits jeunes là, qui commencent, qui se lancent dans l'humour, là, tu sais, il y a une petite gang, là, on fait une soirée, les 60 minutes marocaines, ils m'ont demandé d'animer la soirée. Je les vois, tu sais, genre, ils sont plein de motivation et tout. Je leur dis, c'est très bien ce que vous faites, tu vois. Ouais. Juste, moi, je vais juste vous dire les maladresses que j'ai faites. Si vous pouvez vous les éviter, parce que moi, ça m'a fait perdre un petit peu de temps, tu sais, genre, ouais. Et de crédibilité dans certains aspects. Genre, juste les faites pas. Mais des fois, je me dis, mais je suis qui pour leur dire ça? Moi, ça a fonctionné pour moi.
On l'a tout fait.
Ça a fonctionné pour moi.
Moi, j'envoyais des messages au gérant de Louis José Haute pour le booker sur mes shows quand ça faisait 6 mois que je faisais des shows. Puis, oh, tout le monde me répondait. Salut Emile, merci beaucoup pour ton intérêt. Juste te dire, Louis José n'est pas en mode de rodage maintenant, mais gêne-toi pas, renvoie-nous un message, s'il te plaît.
Jusqu'au jour où c'est Louis José qui demande. Hey, il y a Louis José qui veut.
Tu étais comme bonjour Louis José, présentement, je ne suis pas en rodage, alors je n'ai pas le temps de faire ta première partie.
Exactement.
Yo, en passant, voyant ton parcours, t'es en Pologne, fenêtre, restaurant, bijoux, Dubaï, Valais. Je sens que maintenant à Val d'Or, il y a des soirées d'humour, mais tu vas investir des parts dans les mines. Il y a quelque chose que ça va être l'or, radis, fossile, or, Abitibi, Témiscamingue. Oui, oui, il va avoir quelque chose à Rouen. François Legault va arriver dans un meeting, puis radis va être là, fait comme, yo, I got something, ouais. OK?
Jacob.
Il y a déjà un processus.
Jacob, il y a un projet.
Radis, fenêtre, rénove. Mais
je t'avouerais que c'est pas que j'y ai pensé. Mais partout où tu peux retirer un peu d'oseille, man. Sache que je pète derrière, là, tu sais.
Faut que tu le fasses.
Non, mais tu rigoles, mais genre, on est des humoristes. On fait des blagues. Ouais. Des fois, ça marche. Des fois, ça prend. Des fois, ça dure 5 ans. Des fois, ça dure 10 ans. Les humoristes, notre métier, là, fait qu'on est tout le temps en danger. Artistiquement, dans notre carrière, même financièrement, à un moment donné, on va se mettre en danger. Ça peut s'arrêter dans 5 ans. Moi, le conseil que je donne à tout le monde, investissez.
Ouais,
faites des moves, là. Tu sais, genre, si demain, ça s'arrête, t'as 5 appartements qui te ramènent 10 000 $ par mois. Fin de l'histoire, tu vois. Si demain, ça s'arrête, t'as investi dans 3 cafés qui roulent, tu sais, à la fin du mois.
Fais quelque chose que t'es... Ouais, je comprends. Investis dans quelque chose que t'es quand même passionné.
Quelque chose dans lequel tu es quand même passionné, mais qui va pas nécessairement, tu sais, genre...
Qui n'est pas dépendant de ce que tu fais pour une vie.
Exactement.
Ce sont pas nécessairement passion, juste des investissements.
Mais quand je parle de passion, c'est comme genre... je donne un exemple comme quelqu'un qui aime ça, l'immobilier. Bro. On va dire qu'il y a un humoriste qui est quand même... Il aime l'immobilier. C'est pas qu'il est passionné, c'est pas le bon terme que je dis, mais comme il y a un genre d'autisme que genre j'aime ça regarder centriste. Mais investis dans l'immobilier.
Mais même si t'aimes pas, investis dans l'immobilier.
C'est ça.
Non, mais si t'aimes la restauration puis t'aimes la bouffe, ouvre des cafés.
Quand tu fais de l'humour, on sait que les sommes elles peuvent être rapidement énormes.
Oui.
On le sait que tu peux faire très rapidement si t'as du reach, si t'as des gens qui te suivent, si tu vends, genre, je vais dire une connerie, entre 50 et 100 000 billets, tu peux faire un 150 000, 200 000 par an. Très rapidement.
Facile. Ouais.
Facile. Ouais. Cet argent-là, il faut que ça devienne un revenu passif. T'as pas besoin de 200 000 $. T'as vécu pendant 10 ans avec 35 000 $. T'as pas besoin des 200 000, c'est genre, prends 75 ou 100 ou 125. Crée-toi un revenu passif.
Ouais.
Tu sais, genre, mets ton cousin, mets ton pote, investis avec lui dans un café, tu sais que tu vas recevoir 40% des bénéfices.
Ouais.
Achète un triplex, fais les rénover par ton cousin et tu sais que tu vas récolter 6 000 $ par mois. Tu vois, genre, investis tout de suite parce que après l'humour, ça va devenir genre, ça va, le côté financier, le côté faut que je fasse ça pour vivre, ça va disparaître.
Puis t'as besoin de quelque chose, on va peut-être pas être relevant pendant tellement longtemps. C'est sûr qu'à certaines périodes, on va plus être ce que les gens cherchent, on va peut-être être fucking fatigué du God knows. So.
Regarde, demain le cabaret peut revenir à la mode et le stand-up il va être démodé. T'sais. Et là, moi, je serais prêt.
Ça serait prêt.
J'ai mes perruques là qui m'attendent, frère.
Puis à ce point-là, moi, j'aurais trouvé mon investissement pour avoir du passif. Je vais ouvrir une résidence de personnes âgées, puis tes filles vont te mettre.
Et on va vendre du Viagra. Non, mais dis ça.